sans tomber dans une mystique débridée, il n'en demeure pas moins que je pense que lorsqu'on demande à notamment plusieurs prédicateurs d'apporter un ou plusieurs messages lors d'une conférence comme la nôtre, eh bien, on peut s'attendre à ce que dans ce qui va être apporté, que l'on puisse justement entendre la voix de notre Dieu. Si bien sûr la parole de Dieu est prêchée, le moindrement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine pour nous, pour cette année, comme association, pour chacune de nos églises. J'aimerais qu'on tourne aujourd'hui dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, les versets 11 à 14. Alors, toujours bien sûr avec en tête le thème de notre association, de notre assemblée plutôt, qui est le ministère pastoral. Donc, Hébreux, chapitre 5, les versets 11 à 14. L'auteur d'écrire, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le contexte, rapidement, l'auteur écrit à des croyants d'origine juive, de toute évidence, qui étaient convertis depuis de nombreuses années, mais qui avaient régressé dans leur foi. Ils faisaient face à de nombreuses difficultés, même de la persécution. Il fait référence à la fin, même à ceux qui étaient emprisonnés. Donc, la vie était difficile. Cependant, ils avaient reculé au niveau de leur foi. Ils avaient reculé à un point tel que certains avaient abandonné, justement, le véritable christianisme, et que d'autres étaient vraiment tentés. Et en fait, ils étaient tentés de revenir au judaïsme, de revenir donc à ce qui était dépassé au niveau de la révélation divine, puisque Christ est venu accomplir tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Ils voulaient revenir à ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament et mettre de côté le Seigneur Jésus lui-même. La situation était grave, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, d'après moi. C'est quelque chose qui a pris place tranquillement. Et maintenant, on peut voir dans cet épître-là les fruits d'une négligence au niveau spirituel. L'Écriture nous offre de nombreux exemples concernant la tâche du pasteur et l'art de prendre soin des âmes. Mais on en a un exemple tout particulier ici dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur va s'attaquer dans cette épître, donc, à un problème grave qui sévissait au sein donc, d'une communauté chrétienne du premier siècle, n'est-ce pas? Et qui faisait face, donc, au milieu de leurs afflictions, à un grand découragement, une grande démotivation, au point même, comme j'ai déjà dit, que certains avaient fait défection, mais que plusieurs autres membres de l'Église menaçaient de faire défection. Comment est-ce que notre auteur va faire face donc à cette situation-là? Hein? Est-ce qu'il va appeler une restructuration de l'Assemblée? Est-ce qu'il va mettre sur pied des comités consultatifs? Est-ce qu'il va plutôt demander qu'il y ait une série de conférences sur l'amour de soi, une campagne d'évangélisation, une refonte du culte pour rendre celui-ci plus attrayant, plus interpellant? Est-ce qu'il va chercher une approche plus pragmatique? Est-ce qu'il va chercher à satisfaire la clientèle? Rien de tout cela. Il va aborder la question en prenant soin de bien saisir et comprendre ce qui était réellement en jeu au sein de cette assemblée-là. Hein? Et pour cela, il va jauger, mesurer, circonscrire le tout à la lumière de la parole de Dieu, qui est la norme parfaite pour toute chose. Hein? Et c'est à partir de la même parole qu'il va apporter les solutions nécessaires pour la guérison de cette Église et de ses membres. Et donc, en agissant ici, il va toucher aux vraies choses. Il ne va pas arriver avec des solutions superficielles. Il va poser un juste diagnostic, donc il va parler aussi dans la vérité, il va prescrire donc le bon traitement. Il ne va pas se contenter donc d'une panacée, d'un simple onguent, d'un diachylon, hein, là où une intervention chirurgicale était requise pour sauver la vie du patient en tant que tel. parce qu'effectivement, la vie de plusieurs croyants était en danger. C'est la vie spirituelle, c'était la vie même de l'Église qui était menacée par la situation. Par cette même parole, il va mettre un nom sur la pathologie spirituelle dont souffrent les destinataires de son épître. Il va les interpeller puissamment, il va les avertir de façon très solennelle, il va les appeler à la repentance, il va leur présenter à nouveau la vérité sans compromis, hein, et ce, tout en leur témoignant d'un grand amour fraternel et pastoral, en leur témoignant une grande sollicitude. On voit ici le travail du berger et du docteur. Alors, quels sont les dons que Christ donnait à son Église après sa résurrection? Eh bien, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Quand je dis les dons ici, je parle ici des ministres de la parole. Alors, Christ est le grand architecte de son Église, c'est le maître qui travaille sur le chantier. Il s'est choisi des contre-maîtres pour ériger sa grande cathédrale. Et nous savons que les apôtres et les prophètes sont des dons particuliers qui ont été donnés au premier siècle. Ils ont fait leur travail. Nous avons le message qu'ils ont reçu, nous l'avons ici. Donc, ce sont des dons de fondement. Le fondement a été placé, celui de la doctrine, de la révélation. On n'a pas besoin de refaire le fondement de l'édifice. Tout est là. Il reste les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il y a des divergences parfois sur le don d'évangélistes, disons les missionnaires, les implanteurs d'église. Et puis les pasteurs et docteurs qui sont en fait, les deux termes nous parlent d'un même don, d'une même personne. Alors, ceux qui œuvrent de manière plus particulière au sein des assemblées locales, comme ministres de la parole. Alors, à la tête des assemblées locales, on retrouve les anciens. Et parmi les anciens, il y a des dons différents. Certains sont appelés de manière plus particulière au ministère de la parole. On les appelle de façon plus commune les pasteurs. Celui qui est appelé comme ministre de la parole est appelé à être pasteur et docteur. Le pasteur prend soin des âmes, hein, il paie le troupeau, le docteur les enseigne dans la vérité. C'est intéressant, il y a vraiment ici deux facettes qui décrivent le même don. Et c'est ce qu'on voit ici, un homme qui vient pour relever ses frères et ses sœurs dans la foi. Il veut préserver le troupeau de Christ, il veut préserver les âmes, donc de la chute. Il le fait comment? Comme un docteur de la parole, comme un enseignant de la parole. Il vient d'écrire sur la question du sacerdoce de Christ. En fait, il y a bien d'autres choses qui ont été traitées déjà juste avant. Et il fait référence au fait que le sacerdoce de Christ est est à la manière de Melchisédek, un homme de l'Ancien Testament, on ne touchera pas à cela bien sûr aujourd'hui, sauf qu'au verset 11, il dit ceci, donc au destinataire de sa lettre, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenu lent à comprendre. » Dans ce premier point, il doit leur expliquer des choses qu'ils ont de la difficulté à comprendre. En fait, l'auteur s'arrête littéralement dans son explication. Est-ce que c'est lui qui prend conscience ou simplement il pense que c'est le moment justement de dire ce qu'il a à dire, d'écrire ce qu'il a à écrire, à savoir qu'il était tout à fait conscient que les chrétiens à qui il écrivait auraient beaucoup de difficultés à comprendre de quoi il s'agissait. Nous avons donc beaucoup à dire. Donc, il ajoute à cela, je ne fais que débuter le sujet. J'ai encore beaucoup de choses à écrire sur la question. Cependant, je crains que la plupart d'entre vous soyez dans l'incapacité de bien comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir donné l'avertissement, d'avoir expliqué le tout, il va revenir sur le sujet et il va l'expliquer. En voulant dire, vous devez chercher à comprendre. Vous devez avancer. Alors, encore une fois, il s'adresse à des chrétiens qui avaient reculé, qui avaient régressé dans leur foi. Et il ne peut admettre donc qu'il demeure dans cette situation-là. Donc, il a touché le thème de Melchisédek. Et même pour aujourd'hui, c'est un thème assez corsé pour la plupart des chrétiens. Hein. Et mais il fallait qu'il le touche donc parce que pour pouvoir justement les éclairer sur leur situation, puisqu'ils étaient en train de revenir à l'ancien judaïsme. Et donc, il veut démontrer à quel point c'est une folie, que c'était une folie que d'agir ainsi. Son but à lui, c'est justement alors qu'ils sont en train de regarder à l'ancien temple, à l'ancienne sacrificature, à l'ancienne loi donnée à l'époque de Moïse, son but c'est de les ramener à Christ, de les attacher à Christ et de les amener au trône de la grâce, qu'ils retrouvent l'assurance. Beaucoup d'entre eux étaient en train de faiblir, beaucoup d'entre eux étaient sur le point d'abandonner, ils n'avaient plus de force, ils étaient découragés, ils étaient démotivés pour une seule et unique raison, ils avaient négligé leur foi, leur vie spirituelle, et la personne de Christ avait pâli à leurs yeux. La personne de Christ n'avait plus l'importance qu'elle aurait dû avoir, ils n'étaient plus attachés à la personne du Christ comme ils auraient dû être attachés. Des choses difficiles à expliquer, non pas parce que le message en lui-même est de nature ésotérique ou accessible seulement à quelques élites spirituelles au sein de l'Église. Alors, dans l'Église du Christ, encore une fois, il n'y a pas d'élite spirituelle. On est d'accord avec cela? Tous ceux qui ont été appelés de façon efficace par la grâce de l'Esprit, tous ceux qui sont entrés par la foi dans le royaume des cieux font partie du corps de Christ, sont citoyens des cieux. On voit ça dans l'Épître aux Éphésiens. Déjà, dans la jeune Église, il y avait une tendance même à un certain scindage entre les chrétiens d'origine juive et non-juive, mais on voit d'autres tendances aussi qui se manifestent, et tout au long de l'histoire de l'Église, il y a de telles tendances qui se sont manifestées. Une tendance entre voir les officiers de l'Église, ceux qui sont appelés au ministère de la parole comme étant comme ayant un statut spirituel particulier au sein de l'Église, hein, devenant une espèce de sacerdoce. À d'autres moments, on va voir des gens qui, soi-disant, ont reçu une grâce de l'Esprit supérieur aux autres. D'autres, c'est au niveau des révélations, etc., etc. Partout dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous sommes appelés à considérer tous les croyants comme faisant partie d'un seul et unique corps. Il n'y a pas de demi-citoyen. Hein? Et donc, quand l'auteur enseigne ce qu'il a enseigné, il ne veut pas toucher juste quelques personnes dans l'Église qui auraient soi-disant des grandes capacités, là, qui ont fait des doctorats en théologie. Ce sont des choses difficiles à expliquer, non pas parce qu'elles sont si difficiles, enfin, elles le sont, oui, parce qu'elles sont de nature spirituelle, elles doivent être saisies spirituellement, mais elles sont pour l'ensemble de l'Église, pas juste pour une élite. Donc, ce n'est pas un message ésotérique, ni adressé seulement à quelques individus dotés d'une intelligence ou d'une spiritualité supérieure. La raison pour laquelle ces choses-là étaient difficiles à expliquer, c'est parce que ces chrétiens-là étaient devenus lents à comprendre. Si on lit bien ici, ça dit bien qu'ils étaient devenus lents à comprendre, donc ils n'avaient pas toujours été lents à comprendre. On peut dire que quelque chose s'était passé et ils avaient régressé, encore une fois, comme j'ai déjà dit, dans leur foi. Donc, le problème résidait en ce qu'ils étaient devenus lents à comprendre. La lenteur, le terme, c'est notros, a le sens de signifie en fait la léthargie, la paresse, même la stupidité. C'est-à-dire qu'ils en étaient arrivés à régresser au niveau de l'intelligence spirituelle, au point de ne plus être capable de saisir ces choses-là. Alors, cette lenteur à comprendre-là n'a rien à voir avec les neurones, avec l'intelligence, l'intellect en lui-même. Des gens peuvent être extrêmement intelligents, avoir 3-4 bacs, 3-4 doctorats, n'est-ce pas, avoir fait 3-4 doctorats. Ces gens-là peuvent connaître des langues étrangères, peuvent être des mathématiciens. C'est au niveau spirituel que les choses se passaient ici. Et ça, c'est vrai encore pour chacun d'entre nous dans l'Église du Christ. Quelle que soit notre intelligence, ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu nous atteint. Enfin, il nous atteint par notre intelligence, je comprends, mais il y a une intelligence spirituelle pour saisir les réalités spirituelles. Et ça, j'aurais beau avoir le plus grand nombre de neurones, puis qu'elles soient toutes actives, si je ne suis pas en communion avec mon Dieu, je ne suis pas en recherche réelle de mon Dieu, je n'aurai pas cette intelligence-là. Ils étaient devenus, ils avaient déjà été dans un meilleur état spirituel. Ils avaient déjà vécu une époque où ils étaient capables de saisir les vérités spirituelles. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 à 16. Alors, l'apôtre Paul ici écrit à une jeune église, et d'ailleurs, c'est une jeune église à laquelle il dit qu'il n'a pas pu leur parler comme des hommes spirituels. C'est un certain reproche, mais pas au même niveau que dans l'Épître aux Hébreux, parce que l'église était beaucoup plus jeune, et c'est normal que de débuter notre vie spirituelle comme des enfants spirituels, comme des bébés dans la foi. Alors, l'apôtre Paul ici fait référence, mais même ici, dans sa première épître, donc aux Corinthiens, si l'apôtre Paul fait référence au fait qu'il n'avait pas pu donc s'adresser à ces gens-là comme à des hommes faits en Christ, comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'était en vue justement de les amener à grandir, à ne pas demeurer où ils étaient. D'ailleurs, on voit aussi les fruits ici de cette pensée charnelle, de cet esprit charnel, les divisions, l'orgueil, le désir d'en mettre plein la vue avec nos dons spirituels et tout cela. Hein. Au chapitre 2, donc, d'1 Corinthiens, verset 6, l'apôtre Paul, donc, encore un autre problème qu'on voyait à Corinthe, c'était que justement, il semblait qu'il y avait une espèce d'influence de la part de certains membres qui disaient qu'il fallait qu'on essaie de présenter l'Évangile de façon plus acceptable au monde, avec un plus beau langage, plus sage. Même quand certains semblaient considérer que Paul manquait de sagesse, justement. Il était un petit peu trop raide dans son approche. Paul le rappelle, je n'ai pas autre chose à prêcher que Christ crucifié. Et je ne suis pas venu à vous avec la sagesse du langage. Je vous apportais le message de l'Évangile. Ça ne reposait pas sur la sagesse du langage, mais sur la puissance de Dieu. Hein? Alors, au verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ce sont les sauvés. Hein? Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Hein? On pourrait continuer à lire le reste aussi, où il est question justement que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. L'idée ici, c'est que la révélation de Dieu, eh bien, elle nous a été donnée par son Esprit, et elle ne peut être saisie que par la grâce de son Esprit. Alors, Dieu s'est révélé avec des termes humains, mais il y a un sens à donner à cela. Et celui qui a été régénéré par l'Esprit de la grâce reçoit une nouvelle compréhension des choses divines. Mais il faut bien sûr pour cela aussi y travailler. C'est comme la sanctification, nous avons été mis à part. Il y a une sanctification qui a pris place, mais il faut grandir dans la sanctification. Il y a une connaissance de l'Évangile qui est venue, hein, nos yeux se sont ouverts, nous avons reçu des oreilles pour entendre, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut apprendre, il faut approfondir. L'un des grands problèmes de l'Église contemporaine, c'est qu'au lieu d'approfondir, n'est-ce pas, on cherche des choses à l'extérieur. Et on devient comme, littéralement comme des satellites hors qui sortent de leur orbite et on voit les chrétiens qui commencent à errer partout, justement, à tout vent de doctrine. Alors, le seul remède à cela, c'est de s'enraciner dans la révélation de Dieu. Et elle est tellement grande, c'est un océan de connaissances. Hein, ne serait-ce que juste la connaissance de qui est Dieu. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux qu'il n'y a personne ici qui pourra approfondir le sujet parfaitement ici-bas, même dans l'éternité d'ailleurs. Hein? Alors, il y a tellement de choses à sonder dans l'Écriture que déjà on voit que c'est le fait d'aller ailleurs, c'est déjà une mauvaise compréhension, une mauvaise approche. Quoi qu'il en soit, ils étaient devenus donc lents à comprendre. Le deuxième point, c'est que l'auteur maintenant leur dit que non seulement ils sont devenus lents à comprendre, mais ils ont régressé d'une façon vraiment, je dirais même, anormale. Ils ont fait un retour au lait spirituel. Verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Donc, il y a une désapprobation ici. Vous devriez depuis longtemps, non pas seulement depuis un an ou deux, mais depuis de nombreuses années, vous devriez être des maîtres, littéralement des docteurs. Bon, il faut faire attention avec le terme ici, des enseignants. Bien sûr que l'auteur n'est pas en train de dire que tous les membres de l'Église devraient avoir des doctorats en théologie. L'auteur savait très bien qu'il y a certains membres de l'Église, du Christ aussi, qui vont toujours rester à un certain niveau spirituel. Ici même, il y a une question même de neurones. Hein, tout simplement, de génétique. L'apôtre, mais l'auteur ici parle de façon générale. on est au sein d'une église où, de toute évidence, rien, il n'y avait pas eu d'avancée depuis longtemps, et l'ensemble de l'église avait régressé. Or, on aurait dû trouver au sein de cette église-là des hommes et des femmes qui avaient avancé dans leur foi, qui avaient mûri dans leur foi, et des gens capables d'enseigner. Pas nécessairement d'être tous des docteurs au sein de l'église, dans le sens d'être des pasteurs et docteurs, mais des hommes capables de diriger leur foyer et d'enseigner leur foyer, hein, au lieu de les ramener à la synagogue. Des hommes et des femmes dans l'église, des frères et des sœurs, capables de s'exhorter, de s'encourager mutuellement dans la foi. Comprenez-vous? Il y avait quelque chose ici qui manquait au sein de cette église. Concernant les enseignants, bon, Jacques nous dit lui-même qu'il n'en y a pas beaucoup qui enseignent parmi vous. Ça, c'est vraiment les docteurs, les pasteurs de l'église, OK? Mais en même temps, si le travail est fait, si les chrétiens écoutent, l'église devrait, un tant soit peu, atteindre une certaine maturité dans le domaine. Mais voilà que c'était tout le contraire qu'on voyait au sein de cette communauté-là. Colossiens chapitre 2, versets 4 à 7 nous dit ceci d'ailleurs. Alors on voit ici le désir de Paul pour cette église-là, et on voit ça dans bien d'autres épîtres. On voit la volonté de Dieu pour son peuple. Plus encore, le cœur de Dieu pour son peuple. Le cœur de Christ pour son église. Qu'est-ce que Christ a voulu pour son église? Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, versets 4 à 7, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. » Affermi, enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions, nourri par la bonne parole de Dieu qui était prêchée au sein de l'Église. Et bien sûr, par la lecture aussi de cette parole. Donc, ils auraient dit depuis longtemps atteindre un certain statut spirituel, une certaine maturité spirituelle, mais voilà que l'auteur leur dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. En grec, le mot grec traduit par principe se rapporte à la base d'une chose, ses rudiments, l'ABC de celle-ci. En conséquence de leur relâchement, de leur laxisme au niveau de la foi, de leur pratique, ça va ensemble, j'aurais pu dire simplement juste au niveau de la foi, parce que la foi implique la pratique. Quand je crois, j'agis, comprenez-vous? Et si j'agis mal, c'est que je crois mal. Et donc, il y avait un laxisme, un relâchement. D'ailleurs, à la fin de son épître, il fait un rappel en disant que ne pas abandonner leur assemblée en faisant référence que c'était devenu la coutume de quelques-uns. Il y avait un relâchement. Ça se rapporte au jour du Seigneur, donc il était question hier soir. Donc, les destinataires d'Hébreu en étaient arrivés à ne plus pouvoir saisir même les vérités les plus élémentaires de l'Évangile. Les principes élémentaires, les rudiments élémentaires, je ne sais même pas si on peut encore parler même de la maternelle, ils avaient régressé de façon extraordinaire. Même les rudiments de l'Évangile étaient devenus pour eux trop difficiles à saisir. Ils en étaient venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors le lait, bien sûr, il parle ici du lait maternel, du lait pour les petits bébés, et il est tout à fait normal de nourrir les nouveau-nés avec du lait. Amen. On n'a pas de la viande, on n'a pas des sandwichs, des Big Mac aux nouveau-nés. Par contre, lorsqu'ils commencent à grandir, on commence à lui donner de la nourriture plus solide. Hein? Eh bien, ils avaient commencé, eux, à grandir et à avaler de la nourriture plus solide, mais ils avaient régressé. Et ils n'étaient plus capables maintenant de se nourrir comme ils se devaient. En parlant de lait spirituel, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, Pierre écrit, de toute évidence, à des jeunes croyants, il leur dit, « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, celui de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Alors, il y a un temps pour le lait spirituel. On doit se rappeler d'ailleurs, lorsque les gens arrivent dans l'Église, les nouveaux, on doit se rappeler qu'ils sont au lait spirituel. On oublie ça parfois. Tant dans l'enseignement que, quand j'ai l'enseignement, je ne suis pas en train de dire que le pasteur doit tout régresser tout l'enseignement, mais lorsqu'on aborde les gens dans leur manière, dans notre manière de leur parler, de les encourager, on doit se rappeler que ces gens-là sont au tout début. Mais même ceux-là, même ces gens-là vont devoir, à un moment donné, avancer. Hein? Et ils avaient donc commencé, mais ils avaient régressé. Et cette régression spirituelle, en fait, notre frère Pascal a fait référence à cela hier, c'est quelque chose à laquelle tout ministre de la parole va devoir faire face. En fait, il y a un principe de régression qui est au sein de l'Église. Il y a une espèce de loi naturelle qui sévit, qui est là, la loi de la mort, la loi du péché, n'est-ce pas, qui fait en sorte qu'il y a une pression qui s'exerce pour que l'Église recule constamment, qu'elle régresse constamment au niveau de sa foi. Il y a une véritable opposition à ce sujet-là. Lorsque quelqu'un veut faire avancer l'Église du Christ, il y a même une forme de rejet, bien souvent, justement, de toute nourriture qui sera plus substantielle pour les âmes. Hein, et nombreux sont ceux qui vont désirer et qui se plaisent à demeurer dans les principes élémentaires de base de la parole. Ce qu'il faut voir dans cette communauté-là, c'est que il y a véritablement un levain, un mauvais levain, qui avait pris place et qui était en train de faire lever toute la pâte. Et on voit maintenant, on voit les résultats de cela, une Église qui n'avait plus aucune force, plus aucun courage, plus aucune capacité de fonctionner, de marcher, une Église qui n'avait plus de vision. Et qu'on parle de vision aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a pas un leader aujourd'hui qui ose se présenter devant les gens sans dire « j'ai pas de... » Il faut qu'il dise qu'il y a une vision. Si quelqu'un arrive en disant « j'ai pas de vision », on le met de côté, c'est pas normal. Et l'Église, on est rendu là-dedans. Il faut avoir des visions. Hein? Mais, et c'est, moi, j'ai rien contre le terme. Si par vision, nous voulons dire ici, si nous voyons les choses à la manière des Écritures, si par vision, nous voulons dire que nous discernons Christ, qui a donné sa vie pour nous, Christ qui est ressuscité, Christ qui est au ciel maintenant, Christ qui intercède pour nous. Si par vision, nous voulons dire que nous discernons les réalités spirituelles. Ces gens-là n'avaient plus de vision. Ils étaient devenus très, très myopes, voire presque aveugles. Et quand tu ne peux plus voir ton Sauveur, tu ne peux plus trouver ton réconfort en lui. Alors tu cherches le salut ailleurs. Donc, un levain qui est en train de faire lever toute la pâte, mais de façon extrêmement malsaine, qui était sur le point de détruire littéralement l'Église de Christ. Ils étaient devenus anémiques, sans force, leur foi s'était atrophiée, amoindrie de façon extrêmement dangereuse. Ils étaient sous-alimentés. Le pasteur qui va vouloir s'attaquer à ce problème va rencontrer de la résistance, fera face aux murmures, aux mécontentements et aux critiques. Une forte pression va s'exercer sur lui à certains moments pour qu'il lève le pied sur la pédale, qu'il fasse redescendre l'avion le plus rapidement possible. Il y a des gens qui vont être pris de vertige. Il devra vivre avec l'incompréhension et l'ingratitude de certains, voire avec l'entêtement de plusieurs et le refus de bien d'autres. Néanmoins, c'est là son devoir, c'est ce à quoi il a été appelé, c'est ce à quoi il est lié, il est pasteur et docteur. Il a la charge des âmes. Et son but, c'est d'amener les âmes à Christ, de les souder à Christ, de les amener à contempler le trône de la grâce. C'est son appel, c'est sa raison d'être. S'il ne fait pas cela, il ne fait plus son travail. Mieux vaudrait pour lui démissionner, tout simplement. Mieux vaudrait fermer les portes de l'Église, tout simplement. Alors, le rôle du pasteur n'est pas de conforter les brebis dans leur péché et leur immaturité, mais d'œuvrer à leur croissance spirituelle en dispensant droitement la parole de vie, avec grâce, avec sagesse, avec patience, mais il faut désirer voir le troupeau avancer. Il faut que l'Église s'édifie, se construise, se consolide dans la foi pour porter le fruit qui est nécessaire. Troisième point, ça concerne la parole de justice. Alors, ils ont régressé, ils n'étaient plus capables de se nourrir d'une nourriture substantielle. Et puis, versets 13 à 14, l'auteur ajoute ceci. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Plusieurs comprennent l'expression « la parole de justice » comme désignant ce qui est bien, ce qui est mal en soi, c'est-à-dire toute la question de l'éthique, de la morale. Cependant, d'autres croient, et j'en suis venu à cette conclusion-là, que l'auteur veut faire référence de manière plus particulière même à la justice de Dieu manifestée en Christ. Et lorsqu'on y réfléchit comme fou, on remet ça dans son contexte, eh bien, ça a vraiment de l'allure. En fait, c'est vraiment très, très, très logique. Des gens qui détournent leurs yeux de Christ, des gens qui courent après autre chose que Christ lui-même, vont bien sûr voir leur confiance en Christ atrophiée. En fait, ils vont perdre de vue toute la question de la justification par la foi, de ce qu'est réellement l'Évangile. Ce qui me met un petit peu le feu ces temps-ci, je dois vous avouer, c'est quand j'entends parler de toutes les conférences, toutes les activités qui se préparent sur la réforme, alors que la plupart des églises qui vont faire référence à la réforme et qui vont se référer à la réforme, eh bien, ne croient plus au message de la réforme, qui est la justification par la foi seule, par la grâce seule, la grâce souveraine de Dieu. Alors, je dois vous avouer que ça me déprime, ça m'attriste et ça me met le feu aussi, d'entendre des gens parler de la grâce, tout en ajoutant à cela que c'est grâce à moi, c'est moi qui ai dit oui à Jésus, hein, et que c'est moi qui fais en sorte que je persévère dans les voies de Christ, et que le Seigneur a été là pour me donner un petit coup de main, hein, mais nous on fait le reste. Et ça se répercute dans toute la vie de l'Église. Hein. On va donner un coup de main à Jésus pour sauver les âmes, comme si Jésus n'était pas assez puissant pour le faire lui-même. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous attacher à Christ, de connaître ce Christ-là, d'être transcendé par la connaissance de Christ, par sa gloire, sa puissance, hein, nous jeter à ses genoux pour pouvoir le voir agir au sein de son Église comme il se doit, pour que la parole de Dieu soit proclamée comme il se doit et que les âmes soient vraiment appelées à Christ, pas à l'Église. On peut appeler des âmes à l'Église. Sont-elles vraiment venues au Christ, cependant? Ça, c'est autre chose. On connaît la vieille histoire, n'est-ce pas, d'un évangéliste qui, un soir, a rencontré un ivrogne sur le bord de la rue qui avait de la misère à tenir debout et qui lui disait qu'il était un de ses convertis. Et l'évangéliste lui répond, « Je vois bien que vous êtes un de mes convertis, parce que si vous étiez converti du Christ, vous ne seriez pas dans cet état-là. » L'expérience de la justice. Qu'est-ce que nous devons prêcher dans l'Église du Christ? Christ lui-même. Nous devons rappeler constamment à nos frères et nos sœurs que tout est en Christ, à nous reposer en Christ, à venir à lui. Et oui, nous devons prêcher et enseigner que l'homme est un être déchu, corrompu, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, pour que les âmes puissent se tourner vers Christ et recevoir la grâce qui est en Christ. Si nous amoindrissons la question du péché, eh bien, Christ ne pourra pas briller comme il se doit. On va se confier en nous, tout simplement, et on va mettre de côté Christ et son œuvre. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Hein? Pour les hommes faits, pour ceux dont l'usage est exercé, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, j'ai déjà cité tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Paul dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? La prédication de la croix, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je ne dis pas à Nishok qu'une supériorité de langage et de sagesse. C'est intéressant, lorsqu'on met de côté le langage de l'Écriture, auquel parfois doit se greffer un peu de langage théologique, il est vrai, les gens vont nous dire « Ah, c'est difficile à comprendre. » Et je comprends que le langage est langage. On ne parle pas à l'Église comme si on s'adressait à des étudiants en théologie à l'université. On est d'accord avec cela. Hein? En même temps que quand je vais voir mon médecin, je m'attends à ce que le médecin me dise des choses que j'ai parfois un petit peu de difficulté à comprendre. Si le médecin me dit simplement, vous savez, M. Pelletier, vous avez des gros, gros, gros bobos, ça va pas très, 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 très bien. Je vais dire, mais, et encore? Prenez-vous pour un idiot? Je m'attends à ce qu'il sorte des termes. Je m'attends à ce qu'il explique les termes. Hein? Et quand quelqu'un va me poser la question, mais qu'est-ce que vous avez? Bien, je vais sortir le terme, si je m'en souviens, un tant soit peu. Et là, je vais expliquer aussi. Hein? Je m'attends, parce que si le médecin n'est pas capable de mettre un mot sur mon bobo, il me semble que je ne peux pas lui faire trop confiance. Comprenez-vous? C'est une chose qui commence à me sortir une dissertation pendant une demi-heure de ce dont je suis en train de souffrir. C'est autre chose, il n'est pas capable de le nommer. Je m'attends à ce qu'il le nomme. Je m'attends à ce qu'il me donne un nom sur le traitement qu'il va prescrire, qu'il me donne un nom sur le médicament, hein, qu'il n'écrive pas sur la prescription, donner quelque chose à M. Pelletier, hein, quelque chose qui goûte bon, tu sais, qui goûte la poire, je ne sais pas trop quoi. Hein. Alors, je m'attends que le médecin emploie un certain langage. Les gens raffolent des missions comme Découverte. Alors, c'est pas la grande érudition, mais quand même, ils emploient des termes que bien des gens ne comprennent pas, mais ils trouvent ça bien justement parce qu'ils disent c'est scientifique. Eh bien, dans l'Église, sans aller trop loin, il faut quand même parler le langage de la parole, expliquer le langage de la parole, et c'est la responsabilité des croyants d'apprendre le langage de la parole, de confesser, parce que ce sont les mots même de Dieu, ce sont les mots inspirés de l'Esprit-Saint. On n'essaie pas de changer les mots comme conversion, repentance, péché, comprenez-vous? Expiation, propitiation, toutes ces choses-là. Justice de Dieu. Alors, c'est le travail des pasteurs et des docteurs d'enseigner ces choses-là, d'employer un langage spirituel pour décrire les réalités spirituelles qui ne peuvent être saisies que par la grâce de l'Esprit. Responsabilité pour chaque croyant dans l'Église, justement, de demander au Seigneur de l'éclairer, d'être en recherche, d'avoir faim et soif. Responsabilité du pasteur de donner faim et soif, d'attiser cette faim et cette soif-là, de ne pas laisser les croyants s'endormir, hein, dans leur léthargie spirituelle, de chercher à les réveiller constamment, d'attiser leur foi, leur désir d'apprendre plus. Et comme je l'ai déjà dit, après avoir mis en garde les chrétiens de l'Épître aux Hébreux, l'auteur, quand je dis une mise en garde, c'est une mise en garde très solennelle. Alors, parce qu'il les aime, il leur rappelle que si quelqu'un régresse au point d'abandonner Christ, il n'y a plus de salut pour cette personne-là. Cependant, il manie son art avec une grande habileté, puisqu'après ça, il dit « en ce qui vous concerne ». Il sait comment dire les choses. Il faut reprendre, lorsque c'est le temps, on voit ça avec l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Hein? « Oh, Galates insensés !» pour ensuite les appeler ses frères bien-aimés. Hein? Alors, l'homme savait comment manier les mots comme il se doit, comment dire les choses au peuple de Dieu. Alors, le rôle du pasteur n'est pas de conforter les brebis. Ah, je pense que je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a un petit doublé ici. Bon, je vais le redire quand même. Le rôle du pasteur n'est pas de conforter les brebis dans leur péché, dans leur immaturité, mais d'œuvrer à leur croissance spirituelle en dispensant droitement la parole de Dieu. Il doit les conduire plus loin pour leur propre bien. Il doit combattre la paresse spirituelle, dans sa propre vie d'ailleurs. Hein? Ça, c'est important de bien se rappeler cela. Il doit combattre le relâchement, il doit ramer de toutes ses forces à contre-courant, contre de violentes vagues, de forts vents, contre la mentalité présente qui s'est installée dans nombre d'églises et de familles d'églises, qui veut s'installer chez nous aussi, hein, et ce, quel qu'en soit le prix à payer. On voit en effet triompher de plus en plus autour de nous le relativisme doctrinal. La doctrine, ça n'a aucune importance. Le primat de l'expérience. Je ressens. J'ai expérimenté. Jésus m'a dit. Ah, il ne me l'a pas dit à moi. Recherche du bien-être personnel. Abandon de l'esprit de sacrifice et de consécration. L'Église perd sa virilité et se féminise. Féminise, c'est ça?
Féminise.
De plus en plus. Hein? Pardon?
Ça me manquait un?
Et c'est vrai, l'Église perd sa virilité. Hein? On devrait retrouver au sein de l'Église des héros de la foi, des guerriers de la foi, des hommes courageux qui vont prendre le leadership Oui. Et sans manquer de respect à nos sœurs, bien au contraire, qui sont d'une grande importance au sein de l'Église, mais quand la vapeur se renverse, eh bien, l'Église aussi va prendre une couleur différente qui n'est pas celle que Dieu désire. La tiédeur s'installe dans les bancs, le christianisme devient une religion et se meurt, tout simplement. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation? Hein? Nous, les serviteurs de la parole, baisser les bras, emprunter aux Égyptiens, on connaît l'expression, on emprunte aux Égyptiens, je pense à l'île d'Origène, c'est d'ailleurs, ce qui n'est pas une référence en soi, ou à Clément d'Alexandrie, hein? c'est compromis avec le monde. Non, il faut prêcher la parole de Dieu, l'Évangile dans sa plénitude. 2 Timothée 2,15 nous dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » 1 Timothée 4,16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il faut que les gens écoutent, bien sûr. Hein? La responsabilité est non seulement entre les mains du pasteur, mais aussi des brebis. En agissant ici, le pasteur fidèle ne courra pas comme à l'aventure, ne frappera pas comme en battant l'air. Il ne perdra pas son temps. Son travail ne sera pas en vain. Il va atteindre son but, sa cible, la bonne. Pour ce faire, il doit nécessairement être confessionnel, adhérer à une confession de foi digne de ce nom, qui est un cadre dont on ne peut se passer en tant qu'ouvrier et en tant qu'Église. L'auteur, un peu plus loin, va faire cette remarque étonnante aux chrétiens à qui il écrit. Vous n'avez pas encore lutté contre la chair et le sang. Il est tout à fait au courant des difficultés qu'ils sont en train de vivre. Il compatit avec eux. Il ne leur dit pas que tout cela va s'arrêter. Il ne leur dit pas que c'est en raison d'un manque de foi que ces choses sont arrivées. Il leur dit au contraire, regardez à Jésus qui lui-même a vécu une telle opposition de la part des pécheurs. Et il leur rappelle, vous n'avez pas encore à lutter contre la chair et le sang. En d'autres mots, les choses pourraient même s'empirer. Alors, vous devez accepter la volonté de Dieu, qui, c'est une grâce que Dieu vous fait de vous avoir ouvert les yeux spirituels, que vous puissiez croire en Christ. C'est une grâce que Dieu vous fait de souffrir pour lui, de le servir, d'être associé à Christ dans son rejet de la part des pécheurs. Et vous n'avez pas encore vécu tout ce qu'un chrétien peut être appelé à vivre ici-bas. Donc, regardez à Christ à nouveau et tenez ferme, hein, dans cette foi qui est la seule par laquelle le ciel, par laquelle vous allez être sauvés. Donc, en tant que ministre de la parole, nous avons été appelés comme bergers, paître le troupeau, préserver les âmes, prendre soin des âmes. Comment? En dispensant la vérité, berger et docteur de la parole. Amen.
Amen. Amen.